Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les programmes scolaires ne doivent pas s'adapter à l'éventuel retard pris par les élèves pendant le confinement. Le ministre de l'Éducation nationale s'est montré clair hier. Nous avons demandé aux syndicats ce qu'ils en pensaient. Parole donnée aussi dans ce journal à un habitant de Louisiane. Il attend inquiet l'arrivée de l'ouragan Laura sur l'État américain d'ici quelques heures maintenant. Les vents rappellent ceux des ouragans Christina et Rita en 2005. Retour également sur le procès en appel du boucher de Bosnie, Ratko Mladic. Hier, l'accusé a expliqué qu'il était un soldat professionnel, qu'on ne pouvait pas le condamner pour ses crimes entre 92 et 95. Et puis, nous nous intéresserons dans cette édition au lobbying autour de la taxonomie verte, ou comment faire en sorte d'être bien classé par l'Union européenne malgré ses émissions de gaz à effet de serre. Explication dans moins de 10 minutes. Les programmes scolaires cette année ne seront donc pas modifiés. Qu'importe l'impact qu'a eu le confinement et la crise sanitaire, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l'a confirmé hier après-midi au grand regret des syndicats, Hakim Kasmi.
Même si Jean-Michel Blanquer reconnaît qu'avec le confinement, certains élèves ont pu prendre du retard, pour le ministre de l'Éducation, pas question pour autant de modifier les programmes à la rentrée pour rattraper le temps perdu. Malgré le contexte sanitaire actuel, il confirme que les évaluations prévues le 14 septembre auront bien lieu, les évaluations qui sont désormais la règle, en CP, CE1 et 6e, ce qui risque d'accroître les inégalités, selon Sophie Vénézité, secrétaire générale adjointe du SNES.
On a des élèves là qui ont besoin de revenir dans l'établissement en confiance, qui ont besoin de reprendre des habitudes de travail collectif, et si on n'a pas le temps et les moyens de faire ce travail-là, des élèves vont se trouver en difficulté, encore plus en difficulté qu'aujourd'hui, et ça va être aussi un travail extrêmement compliqué pour les professeurs, puisqu'il va falloir être tiraillé entre cette idée que oui, on a des élèves et on veut s'en occuper parce qu'on veut tout de suite les mettre dans de bonnes dispositions, et en même temps l'impossibilité de le faire parce que le ministre nous parle plutôt de tests, nous parle plutôt de programmes à finir à tout prix, et ça va aussi nous poser problème en tant que professionnels.
En contrepartie, le ministère prévoit des heures de soutien, notamment pour le dispositif Devoirs faits au collège. Rappelons que d'après le ministère, 5% des élèves ont décroché pendant et après le confinement, un chiffre qui atteint même les 34% en zone d'éducation prioritaire.
Et j'ajoute qu'à l'échelle mondiale, la pandémie de Covid-19 a empêché au moins un tiers des élèves de la planète de bénéficier d'un enseignement faute de pouvoir le faire virtuellement. En France, le protocole sanitaire prévoit l'éventuelle fermeture de classe ou d'établissement sur décision des préfets et des directions régionales de santé. Un virus qui se propage toujours dans le pays. Hier, 5000 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures en France. Ce chiffre est au plus haut depuis la mi-avril. Dans les Bouches-du-Rhône, les bars et les restaurants ont dû fermer. Mais hier soir à 23h et jusqu'à 6h ce matin, c'est la même chose pour ces prochaines semaines. À Marseille plus particulièrement, le port du masque est bien obligatoire depuis hier soir. Quant à la ville de Paris, sachez qu'elle a été ajoutée par la Belgique à sa liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées, à moins de se soumettre au retour à un dépistage et à une période d'isolement. Des vents jusqu'à 230 km/h, une montée des eaux qui pourrait atteindre les 6 mètres de haut. La Louisiane et le sud du Texas se préparent à affronter l'ouragan Laura. Il a été renforcé en catégorie 4 sur une échelle qui en compte 5 et il fait trembler Joseph Dunn. Il travaille dans le tourisme en Louisiane et il se souvient des précédentes tempêtes.
On parle beaucoup de Katrina, mais la tempête que tout le monde a tendance à oublier, c'était Rita, qui était juste après, en septembre 2005, et c'est à l'échelle de Rita, en fait, qui était un ouragan beaucoup plus fort que Katrina, par les vents et par la dévastation à l'intérieur du pays. On parle de Katrina parce que à la Nouvelle-Orléans, ce sont les digues qui ont lâché, qui ont inondé la ville. Mais Rita, qui était en septembre 2005, a touché justement cette région de l'État, le sud-ouest, vers Lac Charles, et c'était une vraie catastrophe. Ça m'inquiète beaucoup. parce que cette tempête est énorme et les dégâts seront considérables, même bien à l'intérieur du pays. On va ressentir cela jusqu'à Shreveport, ce qui est à 5-6 heures de route de la zone côtière.
Des propos recueillis par notre correspondant outre-Atlantique, Grégory Phillips. L'acte est aussi fort qu'inédit dans le sport professionnel américain. Un club de basketball en NBA a boycotté un match hier soir. Idem pour certaines équipes de baseball et pour une joueuse de tennis à Cincinnati. Tout le tournoi de tennis est donc suspendu en cette fin de semaine. Toute la NBA est à l'arrêt. Il s'agit en fait d'une mobilisation de soutien à Jacob Blake, homme de 29 ans, afro-américain, victime de 7 balles tirées dans son dos par un policier dimanche. Il pourrait rester paralysé. Hier soir, une nouvelle manifestation avait lieu sur place dans le Wisconsin à Kenosha. Le tueur des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande a été condamné cette nuit à de la prison à vie, sans possibilité de libération. Une décision du tribunal saluée dans la foulée par la première ministre du pays, Jacinda Ardern, qui souhaite à l'auteur de la tuerie, un Australien, une vie de silence total et absolu. Il y a un an et demi, l'homme avait assassiné de sang-froid 51 fidèles musulmans dans des mosquées néo-zélandaises pendant la prière du vendredi. À La Haye, maintenant, se tient le procès en appel de Ratko Mladic, un ancien général surnommé le boucher de Bosnie. Il avait été condamné à de la prison à vie en 2017 pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre pendant le conflit en Bosnie entre 92 et 95. Devant la cour en appel, sa défense assure ces derniers jours qu'il était très loin de Srebrenica au moment des faits. Et hier, Ratko Mladic a pris la parole à la toute fin de l'audience. Laksmi Lota nous raconte.
J'aimerais dire quelque chose au nom du peuple serbe. C'est ainsi que Ratko Mladic débute ses propos qui doivent durer, selon l'ancien général, 30 minutes. Mais la cour lui rappelle qu'il n'en a que 10. Ratko Mladic pointe ensuite du doigt la procureure en la désignant comme, je cite, « cette femme blonde ».
Cette dame blonde, pour l'appeler ainsi, qui, pendant 2 jours, a parlé de moi en utilisant un langage de serpent, de diable.
Ratko Mladic remet en cause le tribunal, affirmant qu'il est l'enfant des puissances de l'Ouest. L'accusé explique qu'il était un soldat professionnel et qu'on ne peut pas le condamner.
Chère madame, je ne suis pas un saint, je suis un homme ordinaire. C'est ce que j'ai dit pendant la guerre. Mon destin m'a amené à défendre mon État.
Alors que la juge lui indique que son temps de parole est écoulé, l'ancien chef militaire lance « Je suis en vie et en bonne santé, votre accusation est tombée à l'eau ». Pendant ce procès en appel, on a vu l'homme de 78 ans se recoiffer, souvent. Il n'a jamais reconnu ses responsabilités dans les crimes commis. La décision du tribunal est annoncée pour le printemps prochain.
C'était Laksmi Lota pour France Culture. Le commissaire européen au commerce démissionne. L'Irlandais Phil Hogan a finalement été emporté par sa participation à un dîner de gala en Irlande. 80 personnes se sont réunies la semaine dernière pour faire la fête en dépit des restrictions sanitaires anti-coronavirus. Le commissaire européen au commerce irlandais y était, ainsi que le ministre de l'Agriculture en Irlande. Il avait lui déjà démissionné il y a quelques jours. Nous en venons maintenant à ce rapport de l'ONG Réclame Finance qui vient d'être publié. Cette ONG dénonce l'armée de lobbyistes spécialistes du gaz et du nucléaire qui gravitent toujours autour des fonctionnaires de la Commission européenne. Ces ONG spécialistes bataillent pour obtenir un label d'investissement vert de la part de l'Union européenne. Une bataille d'autant plus rude en ce moment que le temps leur est compté, Annabelle Grelier.
C'est à la fin de l'année que devront entrer en vigueur les règles européennes des investissements durables concernant le climat, ce qu'on appelle la taxonomie verte, soit un outil de classification des activités économiques non polluantes. Dans les recommandations finales émises en mars dernier par le groupe technique d'experts auprès de la Commission européenne, le gaz et le nucléaire n'y figuraient pas. Une décision qui avait été saluée par les écologistes, mais dans la dernière ligne droite, la donne pourrait encore changer. La Commission européenne vient en effet de lancer une expertise supplémentaire sur le nucléaire, ainsi qu'une nouvelle plateforme d'experts pour le gaz, qui pourrait aboutir à considérer des projets de centrales ou de gazoducs comme énergie de transition et donc les réintégrer dans la taxonomie. Des milliards de financements publics et privés sont en jeu avec la taxonomie, confirme Reclaim Finance. Pas étonnant que les lobbies du gaz et du nucléaire viennent frapper à la porte des décideurs européens tous les trois jours et dépensent des millions d'euros par an pour en faire partie, dénonce l'ONG dans son rapport. Elle révèle notamment que dans les quatre derniers mois, les 825 lobbyistes du gaz et du nucléaire ont obtenu pas moins de 52 rendez-vous avec des décideurs européens. Des lobbyistes en passe d'entrer dans ces nouvelles commissions d'experts. L'ONG tient à alerter l'opinion publique sur le poids croissant de leur influence et appelle les dirigeants européens à couper les ponts avec les lobbies des énergies fossiles afin de respecter leurs promesses en matière d'environnement et développement durable.
Les lobbies du gaz et du nucléaire qui se déchaînent donc à Bruxelles. Des explications d'Annabelle Grelier à retrouver dans la matinée sur notre site franceculture.fr. La pluie arrive par le nord-ouest ce jeudi sur la Bretagne et sur la Normandie. Ailleurs, le soleil devrait briller encore avec des températures homogènes. 15 à 16 degrés au nord de la Loire, 19 à 24 au sud.